temps, les participants vont se présenter. Madame Bonjus.
Oui, bonjour à tous, Christine Bonjus, principale du collège Elsa Triolet à Vénissieux.
François.
Donc, François Bourque, je suis professeur de lettres au collège Elsa Triolet et j'ai été en une partie du temps professeur supplémentaire et maintenant je suis coordonnateur du réseau Elsa Triolet et je coordonne aussi le projet Opéra au collège, du point de vue du collège.
Donc, bonjour, Marie Évreux, chargée de médiation culturelle à l'Opéra et je partage mon temps entre ce projet et d'autres, mais ce projet, je travaille dessus à peu près à mi-temps.
Bonjour, je suis Stéphanie Petitot, je suis responsable du développement culturel à l'Opéra de Lyon.
Rebonjour, Sylvie Martin-Dametto, chargée d'études au Centre Alain Savary, et donc je travaille avec Marie-Odile sur le projet Opéra à l'école.
Voilà, sur lequel nous menons une étude. Dans le trombinoscope, vous voyez aussi Guylain Lenoble, qui est dans la salle. Et qui travaille aussi pour l'Opéra de Lyon. Et puis, derrière la caméra, dans le hueton, il y a Christian Lallier, qui travaille à l'IFE en tant qu'anthropologue et qui fait, vous verrez au cours du déroulement, un travail d'anthropologie filmée sur ce projet. Voilà. Et aussi, Mélodie, la preneuse du son.
Voilà. Et puis on voulait aussi vous signaler donc, la présence dans la salle de Madame Dietrich, qui est déléguée académique à l'action culturelle, et qu'on invitera aussi à donner son point de vue dans les débats.
Si elle le souhaite. Si elle le souhaite.
Donc on va peut-être d'abord vous donner quelques éléments pour vous donner à voir un peu le projet.
Alors, c'est Marie Évreux qui va installer le contexte du projet.
Alors, l'idée, c'est de vous faire une présentation assez générale de...
Vous entendez ?
Celui-ci marche bien.
Une présentation assez générale du projet. Vous donner un petit peu les éléments... pratico-pratique, mais si vous avez des questions à l'issue de cette présentation, n'hésitez pas s'il y a encore des points qui restent à préciser. Donc nous, à l'Opéra de Lyon, dans le service développement culturel, on a notamment en charge une programmation scolaire qui nous permet d'accueillir des élèves du premier et du second degré, entre 10 000 et 12 000 élèves par an. On a aussi une habitude de travail avec les établissements scolaires, avec des classes en atelier de pratique artistique. Et on a par ailleurs aussi, avec des groupes qui ne sont pas de l'éducation nationale, des groupes d'enfants et d'adultes, une habitude de projets qu'on appelle les projets participatifs, où on travaille un peu dans la durée, sur des durées assez longues de 2-3 ans, pour monter un spectacle, un projet avec différents groupes de personnes qui ne sont pas... qui n'ont pas forcément en amont une pratique artistique, même en amateur. Je vous dis tout ça parce que c'est ça qui nous a permis de, enfin qui nous a donné envie de construire ce projet-là, l'opéra à l'école, de s'inscrire encore plus dans la durée, dans un partenariat avec des établissements scolaires. Et c'est pas sorti de nulle part, c'était aussi dans un contexte où on voyait qu'il y avait une progression de la réflexion sur l'éducation artistique et culturelle, un renouvellement des expériences, notamment avec tous les projets qu'on connaît d'orchestre à l'école. Et donc on avait envie aussi de s'inscrire dans cette dynamique-là. Vous dire aussi qu'au niveau local, pour préciser un peu le contexte, nous on intervient sur le territoire de Vénissieux depuis plusieurs années maintenant, de manière assez forte. On a une convention de jumelage avec la ville. On avait déjà mené des projets aussi avec les établissements, enfin notamment avec le collège Elsa Triolet. On était déjà partenaires sur certaines actions et on avait repéré des enseignants motivés sur cet établissement. Donc on avait envie aussi de pouvoir poursuivre cette collaboration avec eux. Donc les objectifs qu'on s'est fixés sur ce projet, c'est en premier lieu l'ouverture culturelle et la découverte du milieu artistique pour les élèves, en partant de notre identité à nous, l'Opéra de Lyon, On a à l'opéra un orchestre, un chœur et un ballet permanent, donc une activité de lyrique et de danse, une activité chorégraphique. Ce qu'on s'est dit en discutant avec les établissements, avec la ville, c'est que ce type de projet pouvait avoir un effet catalyseur sur le dynamisme des établissements, des enseignants, des élèves, et par extension aussi un effet catalyseur sur le quartier, en essayant de mobiliser les familles, les parents, et en travaillant aussi, en essayant de créer des liens entre ce projet et puis les équipements de proximité avec lesquels on travaille par ailleurs, les centres sociaux, le centre de loisirs, etc. Ensuite, évidemment, avoir un effet catalyseur sur les pratiques artistiques et culturelles directement des élèves dans l'établissement scolaire et sur l'agglomération, avec toujours cette volonté de décloisonner les espaces, le centre et la périphérie. C'était aussi pour ça, au départ, qu'on avait commencé à travailler avec la ville de Vénissieux. Et enfin, dans les objectifs opérationnels, on a voulu apporter une approche pluridisciplinaire, puisque c'est notre identité à l'Opéra de Lyon, qui puisse être transversale, qui puisse dialoguer avec les enseignements généraux du collège et de l'école. S'inscrire dans un projet dans la durée, avec des rendus d'étape, un rendu final, qui permettent de produire, enfin en tout cas de susciter un engagement collectif. Et sur ce collectif, de créer du collectif aussi, ou en tout cas de le développer, parce que dans des réseaux éclairs, il est censé préexister à notre action, entre les établissements. Et notamment entre les élèves, dans le passage, la question qui est beaucoup travaillée dans l'éducation nationale, du passage entre le CM2 et la 6e, ça c'est quelque chose qui nous intéressait aussi, de voir comment un projet qui suivait les élèves d'un établissement à un autre pouvait renforcer ce lien entre les établissements et dans le parcours des élèves. Donc le principe qu'on a retenu, Marie-Odile vous l'a dit, c'est une résidence d'artiste à l'école et au collège qui s'inscrit dans une durée de 3 ans. Donc 3 saisons pour nous, 3 années scolaires pour les élèves. Donc dans cette perspective, l'Opéra met à disposition en premier lieu des artistes intervenants qui interviennent de manière hebdomadaire dans les classes pour apporter une pratique artistique régulière et pluridisciplinaire. Donc on a des musiciens, une comédienne, 2 danseurs et 2 plasticiens qui participent à ce projet cette année. Au départ, ils étaient 3. Et puis le nombre de classes augmentant progressivement, on a aussi élargi l'équipe artistique. Donc pour le pilotage et la mise en œuvre du projet au niveau de l'Opéra, c'est un projet qui est piloté en lien avec la direction générale. Et on est un peu plus d'1,5 équivalent temps plein à travailler sur ce projet au sein de l'Opéra, à la coordination. Par ailleurs, on met à disposition de manière plus ponctuelle ce qu'on appelle nos ressources internes. Donc, ça peut être des artistes du chœur, du ballet, de l'orchestre, des personnels techniques aussi, parce que c'est aussi une opportunité pour les élèves de découvrir des métiers, des activités diverses. Donc on est sur les deux des établissements du réseau éclair de Vénissieux, le collège Elsa Triolet et l'école Anatole France A, parce que l'école Anatole France, en fait, c'est un très gros groupe scolaire, donc nous on intervient uniquement sur le cycle 3 dans cet établissement. La première saison du projet, on a travaillé avec toutes les classes du cycle 3, donc 12 classes sur ce projet. Et puis ensuite, on a choisi de faire à la fois un suivi de cohorte et puis un suivi entre guillemets des enseignants. C'est-à-dire que la première année, on était du CE2 au CM2. La seconde année, on a travaillé tout le cycle 3 plus les 6e. Donc il y avait des nouveaux élèves qui rentraient dans le projet en CE2 et on continuait à suivre les anciens. Donc, on est arrivé à 17 classes. Et cette année, on a donc le cycle 3, les 6e et les 5e. Et nous sommes à 24 classes. Ce qui commence à représenter notre limite à tous. Donc, dans l'organisation du temps des ateliers, Chaque semaine, les classes ont une intervention donc d'un artiste ou de plusieurs artistes en même temps. Les ateliers durent à l'école 1h15, au collège ils durent 2h. Ils ont par ailleurs, de manière plus ponctuelle, des sorties à l'opéra, qui peuvent prendre la forme de venues sur des spectacles qu'on donne dans la programmation scolaire, des ateliers, évidemment à la fin de l'année un rendu, un spectacle à l'opéra. Et puis ils ont aussi des rencontres au sein de l'établissement. On a pu faire l'année dernière, par exemple, une semaine opéra à l'école où différents ateliers ont été organisés, par exemple avec le chef accessoiriste, avec des coiffeurs et maquilleurs, avec une danseuse du ballet qui venait parler de leur métier et puis montrer un petit peu aux élèves ce qu'ils faisaient. On a également parfois l'orchestre qui a pu se déplacer dans les établissements pour faire des petites séries de concerts ou des répétitions délocalisées du coup. Voilà. Et pour ce qui est des ateliers, pour le contenu des ateliers, on a choisi chaque année une forme un peu différente. La première année, les classes ont travaillé autour du thème des contes musicaux. Donc les enseignants ont choisi soit de créer un conte musical, donc en travaillant l'écriture avec les élèves, et ensuite le musicien a composé de la musique pour ses contes. Et certains ont choisi de travailler à partir d'un conte ou de plusieurs contes préexistants qu'ils ont remaniés, mis en scène, mis en musique. La seconde année, toutes les classes ont travaillé, on voulait un projet un peu fédérateur et quelque chose qui soit vraiment... qui mettent les élèves dans la dynamique de l'Opéra de Lyon et ont donné à la fin de l'année, en juin, la Flûte enchantée. Et c'est une œuvre qui est très riche musicalement et puis aussi qui aborde beaucoup de thématiques très intéressantes pour des élèves de cet âge-là. Donc toutes les classes ont travaillé autour de la Flûte enchantée. Et la troisième année, on a maintenant une équipe éducative très à l'aise dans le projet et dans la manière dont ça peut se dérouler. Donc cette année, c'est les enseignants qui nous ont proposé des thématiques de travail. Il y a donc cette année une thématique par niveau et ces thématiques sont directement reliées aux enseignements, aux programmes de chaque niveau. Alors je laisserai François en parler pour le collège. Je vous donne un exemple à l'école. Toutes les classes de CM2 travaillent autour du thème de la liberté, en reprenant le programme d'histoire de la Révolution française à la construction européenne. Donc je l'ai évoqué, mais à chaque fin d'année, il y a des restitutions qui sont organisées à l'Opéra de Lyon, qu'on considère moins comme des spectacles aboutis que comme une présentation d'une partie du travail que les élèves ont pu effectuer pendant l'année. Les deux premières années, ces restitutions, elles avaient lieu à l'Amphi. C'est une salle, pour ceux qui ne sont pas venus hier soir, de 200 places, une petite salle assez intime avec un rapport scène-salle très très proche. Cette année, les plus grands, donc ceux qui ont bénéficié de 3 ans de projet, les CM2, 6e et 5e, vont faire une restitution cette fois-ci sur la grande scène de l'opéra. Et les plus petits resteront du coup à l'amphithéâtre. Voilà, donc ça prend une autre dimension. Sur le plan financier, vous dire que nous, donc pour en finir avec la partie opéra, le coût du projet, donc des ateliers, le salaire des artistes, les sorties à l'opéra, ces coûts-là sont assumés par nous, par l'Opéra de Lyon, grâce à un apport important en mécénat et puis le reste du projet sur nos fonds propres. Voilà. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les établissements scolaires ne participent pas. Donc au niveau des établissements scolaires, pour l'organisation, les ateliers ont lieu à l'école. Les ateliers ont lieu pendant le temps de la classe, donc sur les heures d'enseignement normaux. Et les enseignants assument un rôle de coordination, chacun pour sa classe, un rôle de coordination directe. Et pour les besoins d'organisation, de coordination générale, c'est assumé par des professeurs volontaires et par la directrice de l'école, de l'établissement, en lien avec l'IEN du secteur. Au collège, l'organisation est un peu différente. Il y a un professeur référent volontaire qui a été nommé pour chaque classe. C'est lui qui assure le lien entre les artistes et puis le reste de l'équipe pédagogique de la classe. Mais les créneaux opéra, du coup, sont des heures supplémentaires dans l'emploi du temps des élèves. Donc ça leur fait 2 heures supplémentaires dans leur emploi du temps. Et donc c'est 2 heures supplémentaires aussi dans l'emploi du temps des enseignants, qui sont donc financés par DHSE, par l'éducation nationale. Crédit d'État, voilà. Et donc par ailleurs, François assure un rôle de coordination générale pour le projet, en lien avec Madame Gourjus, avec la direction de l'établissement, pour tout ce qui concerne l'ensemble des classes. Et sur les aspects pratiques aussi, on bénéficie donc de la part des établissements scolaires et de la ville de Vénissieux de la mise à disposition de salles. Parce que du coup, les artistes arrivent aussi avec du matériel, ils ont beaucoup d'heures de présence sur les établissements, donc ils ont besoin de salles fixes. Et ça, c'est quelque chose que les établissements ont été prêts à nous accorder, des salles opéra. Voilà. Je voulais vous préciser aussi un petit peu comment on s'organise avant qu'on rentre un peu plus dans le détail. J'ai bientôt fini. C'est avant tout un partenariat et on est très très nombreux. Il y a énormément d'interlocuteurs. Il y a plus de 24 profs, parce que parfois il y a 2 enseignants par classe. La coordination à l'opéra, les établissements, la hiérarchie. Donc il y a énormément de besoins en régulation et très peu de temps pour le faire, parce que c'est déjà un projet qui est chronophage pour les enseignants, donc on essaye de ne pas abonder en temps de réunion supplémentaire. Donc on s'est fixé des cadres petit à petit, ils n'étaient pas forcément fixés au départ, petit à petit on a construit des choses en marchant. Donc les premiers cadres, c'est pour l'école d'avoir intégré dès la deuxième année du projet, le projet au projet d'école, dans la partie culturelle du projet d'école. Et au collège, on a rédigé conjointement un cahier des charges qui reprend les objectifs, les modalités, les moyens d'intervention, voilà, de mise en œuvre du projet. Donc ça, c'est la première chose. À un niveau plus institutionnel, on a un comité de pilotage annuel qui réunit donc les différents partenaires. Et à un niveau opérationnel, on essaye quand même d'organiser des points régulièrement, un peu par niveau, pour faire des points d'étape avec les artistes sur ce qui se passe, ce qu'on peut améliorer. Mais la plus grosse régulation, elle se fait de manière informelle, et c'est beaucoup Guilain du coup qui s'en occupe, parce que c'est lui qui est le plus présent sur le terrain. C'est de prendre le temps de cette présence et d'ajuster quotidiennement en fonction de ce qui se passe, en fonction des problèmes que peuvent rencontrer les artistes et les enseignants pour améliorer le projet vraiment en trouvant des solutions quotidiennes à des problèmes très concrets. Voilà, et puis vous dire enfin, mais vous l'avez déjà précisé, qu'on a donc deux équipes, on a la chance d'avoir 2 équipes de l'Institut français de l'éducation qui nous suivent, qui conduisent ce travail d'étude. En lien très étroit avec les acteurs, et c'est vraiment très important pour prendre du recul sur nos pratiques au quotidien. Voilà.
Alors, on va maintenant rentrer un petit peu sur ce projet, comment il s'est mis en place, qu'est-ce qu'il a produit. La première question que j'aimerais poser, c'est quelles étaient les intentions initiales quand on a lancé ce projet pour chacune des institutions et puis pour les personnes qui s'y sont engagées. Alors, je vais d'abord te donner la parole à Stéphane Christo.
Ouais. D'abord, pour bien comprendre le contexte dans lequel le projet L'Opéra à l'école s'inscrit, je voulais vous préciser qu'on est donc une structure, une association. On est un opéra national, c'est-à-dire qu'on est signataire d'une convention d'objectifs avec toutes les tutelles publiques, dont l'État. Donc ça, c'est important à prendre en considération quand on réfléchit à ce genre d'engagement sur le long terme et sur le terrain. On est également signataire de différentes chartes, des chartes de coopération culturelle dans le cadre de la ville de Lyon ou on vient de signer une toute nouvelle charte d'agglomération. Donc ces engagements nous permettent de réfléchir et de nous projeter aussi à long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas de toutes les structures culturelles avec lesquelles vous pouvez collaborer. L'opéra, on est engagé sur 5 ans dans les chartes de convention opéra nationale et ça nous permet de nous projeter à cette échéance-là. Donc ça, c'est une donnée quand même à prendre en compte dans vos montages de projets ou dans, voilà, dans la complexité dans laquelle vous inscrivez. On est financé du coup à ce titre-là par énormément de fonds publics, donc c'est ce qui constitue vraiment le plus important de nos financements. On a aussi besoin, sur des actions ponctuelles et un peu plus exceptionnelles, d'aller chercher des fonds privés. Ça se développe aussi de plus en plus. Vous y êtes aussi certainement, vous, confrontés. On a reçu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un appel de la Fondation de France. Enfin, on sent que ça bouge aussi de ce côté-là, sur le côté des fonds privés. Le projet Opéra à l'école, il est porté, donc, dans le cadre de l'Opéra, par un service qui s'appelle le service développement culturel, qui est un service dédié au développement de ce type d'action-là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du prosélytisme, on n'est pas là pour porter la bonne parole de l'opéra où ça nous chante. On est vraiment là pour réfléchir, en termes de mission de service public, à la meilleure manière d'accompagner les gens dans la découverte de tout ce qui fait l'opéra. Et c'est très varié. Donc ceux qui ont eu la chance de pouvoir assister à des visites hier, vous rendez compte déjà rien que le bâtiment, c'est une œuvre presque en soi, enfin, il y a une façon de décoder, de pousser la porte, de découvrir cet espace-là. On peut aussi rentrer sous l'angle métier, parce qu'on est 350 à travailler à l'opéra sur des métiers très divers et variés. On peut bien sûr découvrir l'univers artistique qu'on porte, mais encore une fois, cet univers artistique, il est très large, c'est-à-dire qu'on produit du lyrique, mais on produit aussi des spectacles de ballet. À l'amphithéâtre, on a autant des musiques du monde que du jazz. Donc c'est vrai que cette esthétique artistique, elle est déjà très très ouverte à l'Opéra de Lyon. Bon bref, on est pour vous dire que le pôle développement culturel porte le projet Opéra à l'école et que c'est un service vraiment dédié à ces questions-là, comme vous trouvez dans d'autres institutions culturelles qui ont un service dédié à l'action du jeune public. Voilà, vous avez en général un interlocuteur qui fait le lien entre ce qui se passe à l'extérieur et puis la façon dont on peut construire des choses avec ce qui se crée à l'intérieur. Mais on a des particularités et des façons de travailler assez singulières. La première, c'est qu'on n'attend pas qu'on vienne nous solliciter pour développer des projets. C'est-à-dire qu'on a une façon de travailler qui pense la rencontre vers l'autre, c'est-à-dire, même si c'est un truc tout bête, dans la façon dont on prend les rendez-vous, en général, on se déplace, on va voir ce qui se passe sur le terrain et on n'attend pas que les gens passent la porte de notre bureau pour considérer qu'ils sont potentiellement intéressés pour monter un projet. Donc ça, c'est une façon de travailler qui est particulière à notre service, en particulier à l'Opéra de Lyon. On est un service aussi qui s'est doté d'une équipe fixe. Alors ça, c'est aussi important à souligner, parce que vous avez parfois dans les structures culturelles des personnes, des interlocuteurs qui peuvent changer tous les 6 mois, 1 an, ou des postes de stagiaires qui occupent ces fonctions-là, qui ont pour mission de développer des projets. C'est vrai que le contexte économique est celui-ci, on va pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'Opéra, on a choisi de pérenniser les postes et de faire en sorte que les interlocuteurs, quand on décide de travailler sur un territoire avec des relais, et voilà, que ces interlocuteurs ne changent pas. Et pour vous donner une idée, en 2004, quand le service a été créé, il y avait 2 équivalents temps plein au service. Maintenant, on est 5 équivalents temps plein en 10 ans. Et puis, dernière particularité de notre travail, c'est qu'on a ciblé des territoires d'action prioritaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les autres personnes de Lyon, de son agglomération, même de plus loin, parce qu'il y a un rayonnement de l'Opéra de Lyon qui est quand même assez large. Mais on se concentre sur des territoires avec lesquels on a une histoire singulière, notamment le bas des pentes de la Croix-Rousse, qui sont nos voisins les plus directs. C'est un territoire qui est classé en contrat urbain de cohésion sociale, ça veut dire qu'il concentre des difficultés économiques, sociales, voilà. Et on a décidé aussi de s'ouvrir à un autre territoire de l'agglomération et pas rester vraiment hyper centré sur l'hypercentre. Il y a eu de grands débats avec les tutelles pour savoir sur quel territoire on allait plutôt concentrer notre action. Et finalement, on a choisi la ville de Vénissieux parce qu'on a nos ateliers de décor qui sont implantés là-bas depuis très longtemps, des ateliers de construction, de stockage aussi. Et puis qu'on a un projet à échelle 2016-2018 de construction d'un équipement qui s'appelle la Fabrique Opéra et qui permettrait de réunir toutes les activités de répétition de l'opéra, et ensuite les activités de représentation resteraient dans le bâtiment de Jean Nouvel que vous connaissez pour la plupart en centre-ville. Donc le projet du service développement culturel, c'est vraiment un projet d'action globale et c'est de cette manière qu'on construit nos projets. C'est-à-dire que à la fois on propose des découvertes de spectacles. Donc Marie disait, on a en charge la programmation scolaire, donc ça veut dire l'accompagnement aussi du spectateur, des enseignants, pour leur donner les éléments nécessaires à la préparation et pour la venue au spectacle. Ça veut dire aussi qu'on aide à la découverte des métiers, à la découverte du bâtiment, et qu'on met en place des projets participatifs. Parce qu'une des particularités aussi de notre manière de réfléchir, c'est de se dire, la meilleure manière de comprendre ce qui fait le foisonnement de ce qui se passe à l'intérieur de l'Opéra de Lyon, c'est de vivre, de traverser cette expérience sensible et de faire. Donc, on passe beaucoup par de l'écoute, mais on passe aussi beaucoup par de la pratique. Et ça, c'est une des principales... c'est un point vraiment central de notre façon de travailler. Et la venue, la façon dont le projet Opéra à l'école a été pensé, il porte tout ça en lui, c'est-à-dire à la fois l'histoire du service, à la fois une politique, politique culturelle à l'échelle de l'Opéra de Lyon, et en même temps une des méthodes de travail qui sont assez singulières et qu'on développe ici. Il est né d'une envie conjointe, c'était une volonté de développer de manière plus pérenne la présence artistique dans des établissements scolaires. On avait vraiment envie de faire ce test-là et d'expérimenter sur un moyen, presque long terme quand même, 3 années, c'est long terme, un suivi de cohorte. On a fait ce pari du suivi de cohorte et d'examiner ce qui se passait entre le passage entre l'école et le collège. Et pour ça, on s'est fait accompagner, ça fait aussi partie de nos manières de travailler, par une équipe de recherche qui nous aide à observer à la fois les profils des participants, parce qu'on en a une vision qui est peu précise parfois, et en même temps les effets de ce genre de projet et de présence artistique régulière sur le terrain. Donc ça, c'est une façon aussi de considérer qu'on s'alimente et qu'on réfléchit tous ensemble autour d'un même objectif. Le projet engage donc l'institution opéra dans son ensemble, donc c'est bien l'opéra à l'école. Il y a 7 artistes, mais il y a aussi des manières de tisser des liens, c'est-à-dire que on a parlé de la venue au spectacle, on a parlé des concerts qui avaient lieu dans les lieux de scolarité, c'est-à-dire que c'est la salle Hélène Combier en l'occurrence qui nous accueille souvent pour faire ce genre de spectacle sur le terrain. Mais il y a aussi des élèves qui sont accueillis en stage à l'opéra, donc des élèves de 3e du collège qui ont une passerelle un peu particulière, un peu plus... on leur file un petit coup de pouce pour venir découvrir ce que c'est que travailler à l'Opéra de Lyon. Il y a des compétences tout à fait transférables avec d'autres structures, d'autres entreprises. Ce qu'on voulait tester sur ce projet-là, c'était donc savoir en termes de durée ce que ça changeait sur les apprentissages. Donc ça, c'était vraiment la présence de l'art à l'école. Est-ce qu'elle favorisait ou pas les apprentissages dans le cadre de la scolarité? On voulait le tester sur la régularité. Donc ça, c'était un vrai pari, parce que ça représente un volume budgétaire extrêmement important, d'avoir des artistes présents toutes les semaines dans le cadre de l'école. Un projet, je vous le disais, qui pensait des allers-retours entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à l'opéra. C'est-à-dire que ça demande aussi aux enseignants et aux élèves de bouger, de prendre le bus, de prendre les transports en commun, de calculer cette familiarisation-là avec l'institution culturelle qu'on représente. Penser aussi une façon de vivre l'expérience du spectacle vivant grâce au temps de restitution, c'est-à-dire à chaque fin d'année scolaire, on rythme les temps de présentation, donc à l'amphithéâtre et sur la grande scène, mais on ne les pense pas comme des temps de spectacle, c'est-à-dire l'objet du projet, c'est pas d'avoir un spectacle léché, parfait du début à la fin, c'est vraiment vivre l'expérience sensible du spectacle vivant. Et ça, c'est compliqué à faire entendre, parce que c'est vrai que parfois les enseignants ont beaucoup d'attentes sur ce temps de restitution et ils passent beaucoup de temps à peaufiner le spectacle, à le répéter, ils le vivent, ils l'intègrent de cette manière. Il y a une forme d'habitude de travail qui est pensée comme ça, et c'est vrai que là-dessus, on avait envie d'inverser cette tendance-là et de se dire, nous, ce qui nous importe, c'est vraiment le processus, le temps de création, de créativité, de découverte, d'expérimentation, plus que le temps de peaufiner un spectacle parfait du début jusqu'à la fin, comme on pourrait se l'imaginer. Donc pour résumer, on voulait, pour l'opéra, c'était important de lancer une expérimentation, de concentrer notre présence à un endroit en particulier qui est Vénitieux et le plateau des Minguettes, sur 2 établissements qui sont en éclair, de concentrer ça pour les élèves et de voir les effets que ça avait sur les apprentissages, d'engager les artistes et les professionnels de l'opéra autour d'un même objectif, donc c'est un même objet. Ça, c'est important aussi pour nous d'engager la structure, l'institution en entier, de fédérer autour de ce projet opéra à l'école et d'observer ce que cette situation singulière pouvait générer en généralité, c'est-à-dire c'est ce qu'on travaille avec la recherche, savoir à partir de cette observation très singulière de ce qui se passe sur le terrain, pouvoir en dégager des généralités sur ce que vraiment l'art fait à l'école.
Voilà. Madame Gourju, du point de vue d'une principale de collège, d'un collège, voilà, accueillir un tel projet, on imagine qu'au départ, ça doit faire quand même un petit peu peur, on doit se dire, là, ça va être lourd, ça va générer beaucoup de choses compliquées à gérer. Qu'est-ce qui a motivé le collège à s'engager dans ce projet?
Tout à fait. Alors, dans quelles conditions un collège s'engage dans un projet d'une telle envergure? Eh bien, je m'arrêterai tout simplement sur trois points qui me semblent importants. Donc, dans un premier temps, je ferai référence aux textes fondamentaux. Aux textes fondamentaux, aux grandes orientations de la nation et de l'éducation nationale à travers, bien sûr, les déclinaisons des textes ministériels. Et dans un premier temps, je m'appuierai tout simplement sur le préambule de la Constitution de la Ve République qui affirme que la nation garantit l'égal accès à l'adulte, à l'enfant et à l'adulte, à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 60 ans plus tard, vous me pardonnerez cet écart chronologique, mais je m'arrêterai sur la loi d'avril 2005 qui voit quelques mots se modifier, mais qui traduit bien sûr la volonté de notre ministère de faire évoluer, comme l'a très justement dit Marie, d'engager progressivement un véritable engagement dans la culture artistique au sein des établissements scolaires. À savoir que nous ne parlons plus d'enseignement artistique, mais d'éducation artistique et culturelle. La loi d'avril 2005 renforce bien sûr cet engagement par la création d'un socle commun de connaissances et de compétences, exigé enfin de scolarité obligatoire, à travers bien sûr le pilier 5, la culture humaniste. Je laisserai François Bourgues évoquer ce point de façon beaucoup plus pertinente que je ne le ferai. Avril 2005, donc un engagement. Ensuite, engagement concrétisé 2008. J'entendais madame qui nous vient d'un pays très proche, frontalier, l'Italie, qui effectivement pouvait s'interroger sur l'introduction des arts à l'école aussi tardive. Eh bien, en 2008, un encart du bulletin officiel de l'éducation nationale, bien sûr, fait entrer la discipline histoire des arts pleinement dans l'évaluation des élèves de collège, atteignant presque la fin de la scolarité obligatoire, puisqu'ils sont évalués à la discipline histoire des arts au niveau du diplôme national du brevet. Donc il y a une réelle volonté qui se concrétise. Et puis bien sûr, j'arriverai rapidement sur juillet 2013 avec la loi d'orientation de programmation pour la refondation de l'école, là où est clairement affirmé, et une section entière est dédiée à l'éducation artistique et culturelle et aussi sportive, où on nous demande de favoriser la connaissance, la création et surtout de développer la créativité en accord avec les partenaires du terrain, les partenaires locaux, associations, institutions et au-delà bien sûr avec tout ce qui nous permettra d'appréhender de façon et de travailler au plus près avec les acteurs du monde culturel. Je crois que nous ne pouvons pas, en tant qu'établissement public local d'enseignement, ignorer ces textes qui nous conduisent effectivement, progressivement, vers une mise en œuvre marquée de l'introduction de l'art à l'école. Je passe sous couvert quand même le vadémécum du programme éclair auquel nous appartenons, qui bien sûr renforce encore cette proposition qui nous est faite et surtout cette demande institutionnelle qui nous est faite. Ça, c'est la première chose. Je pense que les textes nous invitent absolument à nous arrêter sur l'accès à la culture, l'égalité de l'accès à la culture, comment nous y allions, que faisons-nous dans les établissements scolaires, au sein de l'école, avec un grand E, pour y aller, pour faire en sorte que ce rayonnement culturel ait lieu et cet apport de connaissances ait lieu, et bien sûr, apport de connaissances au sens large. Le deuxième point sur lequel je m'arrêterai et qui pousse un établissement, un collège, bien sûr, à s'engager dans un, dans un projet de cette envergure, eh bien, c'est bien sûr le territoire. Je suis à la tête d'un établissement scolaire profondément marqué par un territoire et un espace territorial appartenant à la zone, à une zone d'éducation prioritaire, éclair, comme je vous l'ai dit, école, collège, lycée, ambition, innovation, réussite, et puis à la rentrée 2014, réseau d'éducation prioritaire plus, puisque nous intégrons les établissements préfigurateurs dans le cadre de la nouvelle loi de juillet, dans la nouvelle loi de programmation et la réforme de l'éducation prioritaire. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, vous comprendrez bien que dans le contexte de notre établissement, combien le préambule de la Constitution de la Ve République est quand même malmené, bien sûr. Puisque garantir l'accès égal à l'enfant, à l'instruction et à la culture est quand même beaucoup plus compliqué dans notre établissement que dans un autre. Donc, à nous de faire en sorte que cet accès, eh bien, il ait lieu malgré tout. Donc, cela se base, bien sûr, sur une politique d'établissement ambitieuse, dynamique et innovante. Madame la chercheure, quand je suis arrivée, parlait de l'innovation nécessaire qui est demandée au niveau des établissements scolaires, au niveau du cursus scolaire, effectivement. Nous ne pourrions pas fonctionner si nous n'étions pas innovants et si je n'avais pas à mes côtés des professeurs précieux, désireux et intéressés par la réussite de chacun. Donc c'est un projet d'établissement, un contrat d'objectif aussi, qui voit dans l'un de ses axes très affirmés l'ouverture sur le monde culturel local et la réussite de chacun. Donc une politique d'établissement visant à atténuer le fossé social qui est dû à des différences, on va dire, socio-culturelles, géographiques, sachant que nous sommes sur un plateau, le plateau des Minguettes, qui a extrêmement souffert pendant très longtemps d'un cloisonnement qui s'est atténué effectivement avec l'arrivée du tram, mais qui reste malgré tout très prégnant, d'autant plus auprès du public que nous accueillons et des familles au quotidien que nous recevons. Voilà. Donc toute cette réalité, bien sûr, demande une adaptation, demande une implication très très importante. Et le projet Opéra est apparu immédiatement comme un formidable levier qui pouvait nous permettre de travailler ensemble et de lutter vraiment, puisque c'est de cela dont il s'agit, de lutter contre, on va dire, l'écart qu'il peut se créer entre un élève et un autre. Donc, voilà. Le troisième point, eh bien, je dirais que je m'arrêterai tout simplement. Donc, j'ai évoqué les textes, bien sûr, j'ai évoqué le territoire, le lieu spatial, et le troisième point qui a toute son importance, ce sont les femmes et les hommes qui travaillent sur le terrain, qui ont des valeurs, qui font que chaque jour nos élèves sont conduits vers la réussite et qui sont préoccupés réellement par l'égalité des chances. Voilà. Je crois que ces trois grands points font que ensuite nous pouvons nous lancer sur un projet puisqu'il répond à une demande de terrain. À une demande de terrain qui est accrue au quotidien, tant un décalage social ne favorise pas l'accès à la culture. Ensuite, eh bien, bien sûr, il y a aussi les convictions de chacun. Et je crois qu'à la tête de cet établissement, il faut être convaincu de la réussite au quotidien, de la réussite de chaque élève que nous accueillons. Et c'est pour cela que nous œuvrons dans une société complexe, en crise, qui, à travers des médias, à travers des réseaux sociaux, contribue fortement à parasiter notre quotidien, hein. Eh bien, donc un engagement des équipes. Et cet engagement, finalement, ce projet est à la croisée de nos chemins, la croisée de convictions, croisée spatiale, croisée des textes, et puis, bien sûr, une rencontre formidable avec l'équipe de l'Opéra, que je remercie particulièrement, dans la mesure où j'étais déjà convaincue que ce projet répondait à ma demande, à notre demande, puisque je savais... J'en avais déjà parlé aux équipes, mais j'avais eu l'occasion, avant que j'arrive sur l'établissement en février 2011, de travailler au lycée français de Chicago. Et j'étais revenue avec quelque chose, et à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais arriver sur Elsa Triolet, et j'avais rencontré des artistes en résidence au lycée français de Chicago, et cela m'avait semblé fabuleux. Voilà. Et je m'étais dit, bah, vraiment, ce serait vraiment extraordinaire si j'arrivais dans un autre établissement, et je veux vraiment mettre ça en place, une résidence d'artistes. Et puis, voilà, et vous êtes arrivés, je vous en remercie beaucoup, parce que grâce à vous, mon parcours a été ô combien facilité, et ma conviction et mon enthousiasme à mettre cela en place facilité. Voilà. Donc, j'ai répondu, bien sûr, favorablement au projet Opéra, d'autant plus, et je vais rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Stéphanie, que nous inscrivons à travers ce projet dans un facteur d'éducation et non pas dans un aboutissement. Et c'est pour cela, c'est ce facteur d'éducation dont nous avons besoin au quotidien qui nous permet d'améliorer la performance scolaire. Et nous ne sommes pas un aboutissement. Et ce qui permettrait, Stéphanie, si vous me le permettez, de renchérir sur ce que vous avez dit en parlant parfois de la déception lors de la présentation pour certains de nos élèves à l'amphithéâtre, à l'amphi-opéra, dans la mesure où la prestation relève d'enfants et non pas d'artistes en tant que tels, hein, et bien parce que nous sommes justement dans un facteur d'éducation, que ces artistes et l'opéra travaillent à, non pas à l'aboutissement, mais à une construction, à un développement au quotidien. Et je peux vous dire... en tant que chef d'établissement, connaissant vraiment l'établissement de l'intérieur, et loin de moi de dire que je connais chaque potentiel d'élève, même si je le soupçonne et si j'y crois, et bien malgré tout, sur la scène, j'ai pu voir combien le monde était un autre monde pour certains élèves, et je m'imaginais que après l'amphi-opéra, je connaissais le milieu où ils allaient se retrouver après avoir déclamé la flûte enchantée de Mozart. Eh bien ça, c'est extraordinaire et c'est un saut magnifique. Voilà. Pour les conditions qui sont à mettre en place, eh bien c'est ce que je viens de dire, bien sûr, de dire, mais je voudrais insister sur le fait, bien sûr, qu'il y a, bien sûr, l'humain, le matériel. Vous avez parlé de l'espace, je savais qu'au collège Elsa Triolet, nous avions l'espace pour vous accueillir. Et puis il y a les finances. Sans les crédits d'État, rien ne serait possible. Et sans l'humain, bien sûr, rien ne serait possible, c'est-à-dire une implication exemplaire des équipes, des professeurs référents qui ont immédiatement répondu favorablement à ce projet. Je les remercie encore, je remercie l'Opéra et puis je remercie l'IFE qui m'apporte un petit peu de culture dans mon quotidien, et ça me fait vraiment bien, et je m'excuse auprès de l'IFE bien sûr de ne pas avoir pu être présente à ces deux jours, à cette journée et demie consacrée aux arts, mais le terrain en cette septième semaine non-stop nous retient fortement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Que je voudrais maintenant demander à Marie-Odile, du point de vue de l'Institut français d'éducation, qu'est-ce qui a fait que l'IFE s'y est intéressé et quel a été son envie d'y aller, pour faire quoi?
Alors, je suis normande, mais je vais quand même me porter en touche. Non, je vais être très très rapide. Donc l'Opéra de Lyon a effectué la procédure d'un appel d'offres, car il voulait le suivi du projet sous une forme évaluative. Et l'IFE, à ce moment-là, a fait une contre-proposition. Et cette contre-proposition, ben, je vais laisser au caméraman, là, que vous avez, anthropologue vous l'expliquer.
Personne ne souhaite pas être filmé, surtout qu'elle me le signale. Voilà. Pour qu'il identifie bien, pour ne pas les mettre par erreur ou par hasard dans le futur. Effectivement, donc, ce projet, très rapidement, donc, nous avons reçu la proposition, je dirais, de l'Opéra à l'école, de l'Opéra de Lyon, sur ce projet de l'Opéra à l'école, qui au départ était une demande d'évaluation, je dirais, de ce qu'ils avaient entrepris, de ce qui vient de vous être présenté. Et la proposition, ce cahier des charges m'a été remis à un moment donné, et j'ai proposé en fait effectivement une contre-proposition qui était non pas de faire une évaluation, mais de proposer une anthropologie filmée, sur quoi je me suis expliqué longuement dans ce projet initial, qui a été après proposé donc à l'équipe de l'IFE, à la direction de l'IFE, qui l'a soumis à l'Opéra de Lyon et qui l'a retenu. En un mot, mais je reparlerai pour ceux qui viendront à mon atelier cet après-midi, je développerai effectivement qu'est-ce que l'anthropologie filmée. En un mot, c'est pouvoir rendre compte d'une situation dans son épaisseur à travers les interactions entre les différents acteurs, à travers les interactions sociales. Là, nous filmons, je dirais, sur trépied, la table ronde. C'est pas tout à fait représentatif de la manière dont on tourne, avec Mélodie Tabuka qui est ici, qui est ingénieur du son. Qui fait un gros boulot parce qu'elle travaille sur trois micros en même temps, car il s'agit de rendre compte des situations à travers l'observation filmée, des échanges, pour avoir la possibilité de donner à comprendre des situations à travers les logiques d'acteurs, les modes de justification, les modes de légitimation de l'action, la manière dont les gens défendent leur projet, leur démarche. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, sauf que effectivement l'Opéra de Lyon s'est tout à fait accordé à ce projet. L'a accueilli avec, je les en remercie encore grandement, Stéphanie et Marie en particulier, parce qu'il y avait une forme de subversion, puisque d'emblée on leur disait que bah, non, on ne va pas faire une évaluation, on ne va pas vous proposer de faire une évaluation parce qu'on a envie de vous proposer autre chose. Évidemment, les deux étaient possibles, c'est ce qui a été le cas, parce que c'est profondément complémentaire. C'est en ce qui me concerne, travail sur. Un travail sur l'épaisseur, et on est plutôt dans, je dirais, de permettre de donner à comprendre aux personnes une situation à travers ce qui se joue dans une situation donnée. On est dans une approche un peu holistique, je dirais, donc qui prend la situation dans sa globalité, et alors que, dans un travail de l'écrit, on est beaucoup plus dans un travail d'analyse, analytique, et qui apporte une autre forme de connaissances qui sont extrêmement complémentaires, et je me réjouis qu'on puisse faire accorder les deux, c'est la première fois, car souvent c'est l'un ou l'autre, et l'Opéra a souhaité les deux, et donc on a dit banco. Voilà.
Donc pour la partie écrite, c'est le travail que nous menons, Sylvie et moi-même. Le Centre Alain Savary, parce que son centre de gravité, c'est de s'intéresser aux élèves qui sont sur les territoires de l'éducation prioritaire. Et vous aurez un tout petit aperçu tout à l'heure. Mais on s'est centré sur ce qui est de l'ordre de l'organisation du pilotage, sur la professionnalité des enseignantes et sur les apprentissages des élèves. Et ça sera pour une autre partie.
Merci. Alors justement, deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est quand un gros projet vient s'installer à un endroit, forcément, ça a un impact. Ça fait bouger des choses. Alors, qu'est-ce que ça demande et qu'est-ce que ça apporte, un tel projet? Je voudrais d'abord poser cette question à François Bourg pour qu'il me donne un peu le point de vue des enseignants qui se sont engagés devant.
Oui, moi je vais vous donner le point de vue des enseignants, notamment du second degré. Je pense que Sylvie, tu pourras parler peut-être un peu du premier degré, parce que moi je suis enseignant du second degré, donc je coordonne le travail qui se fait au collège. Donc, ce que ça demande, bien évidemment, on l'a déjà dit, ça demande du temps. Les professeurs référents de chaque classe prennent 2 heures supplémentaires sur leur emploi du temps pour suivre une classe. Mais au-delà de ces 2 heures supplémentaires, bien évidemment, il y a tout un travail de régulation, de bilan d'étape avec les artistes, de concertation en équipe pour organiser et pour concevoir l'ensemble des ateliers. Quand l'opéra est venu de l'école au collège, donc après leur première année d'intervention sur le groupe scolaire Anatole France, il était évident qu'il fallait qu'on se concerte au sein de notre équipe pour concevoir justement les modalités d'intervention et rédiger ce cahier des charges qui nous semblait très important et qui a pu permettre de cadrer les interventions et le rôle de chacun. Donc ça, ça a été essentiel. Et chaque année, on a des réunions ou un bilan pour savoir ce qu'on va entreprendre l'année suivante. Et on est déjà en train de réfléchir aux futurs projets, aux futures orientations qu'on pourrait donner à ce projet, puisqu'il arrive à son terme à la fin de l'année. Ça demande aussi, bien évidemment, une capacité d'adaptation, hein, parce que les professeurs référents sont des professeurs de lettres, d'EPS, d'histoire, de langue vivante, anglais, d'art plastique. Il y en a pour qui le partenariat ou le travail avec un partenaire n'est pas si évident que ça d'emblée. Et donc aussi une capacité d'adaptation dans les disciplines qui sont présentées dans les ateliers, hein, que ce soit avec le plasticien, avec le musicien ou avec la comédienne. Il y a des notions que certains professeurs n'ont pas l'habitude d'aborder, donc il a fallu bien évidemment apprendre, échanger, et donc ça demande une capacité d'adaptation des professeurs. Autre point que ça nous demande, c'est également ce travail de co-animation et interroger nos pratiques, parce que au collège, mais je crois que c'est aussi vrai dans le premier degré, la co-animation et la co-intervention ne va pas de soi, et c'est pas si évident de partager la classe. Et donc, c'est vrai qu'au sein du réseau éclair de Elsa Triolet, on a toute une série de dispositifs qui nous permet d'avoir des co-interventions, etc. Mais tous les professeurs n'y sont pas habitués, et ça demande une réflexion sur justement quel est le rôle de chacun dans un atelier artistique, comment se positionne l'artiste, comment moi, professeur, je me positionne, et ça demande une réflexion sur nos pratiques. Ça c'est évident, et c'est vrai qu'on a des échanges très réguliers, hein, souvent informels, après un cours, après un atelier ou à la cafétéria du collège, sur des choses qui se sont passées pendant les ateliers, sur lesquelles on aimerait revenir et qui nous interrogent, donc sur nos pratiques. Ce que ça nous apporte, parce qu'avant de venir, bien évidemment, j'ai interrogé toute l'équipe des professeurs, il y a 12 professeurs référents, hein, 11 avec moi, 12 donc, qui travaillent avec l'opéra. Et donc je leur ai demandé qu'est-ce que ça vous apporte justement ce travail avec l'opéra. Et là, le point qui revient le plus, c'est la meilleure connaissance des élèves. Voir les élèves dans un autre contexte que celui de la classe, les voir évoluer dans des disciplines dans lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de les voir évoluer, avec des matières qui ne sont pas forcément... et dans des situations que l'on a peu l'habitude d'aborder. Et donc c'est ce qui ressort le plus, c'est la meilleure connaissance des élèves. Sachant que l'une des volontés, ça n'a pas été facile au niveau des emplois du temps, mais ça a été que chaque professeur référent ait la classe, bien évidemment, dans la discipline qu'il enseigne. Donc la classe dont je suis le professeur référent, c'est aussi la classe que j'ai en français. Voilà. Et c'est vrai que ça n'avait pas été la priorité la première année où le projet est arrivé, et puis ça nous a semblé être une nécessité, bien évidemment. Et ça fonctionne, bon, sauf pour une classe avec laquelle ça a été compliqué, mais bon, on arrive quand même à travailler. pardon. Un des apports aussi, c'est tout ce temps de création artistique. Les professeurs me disent, quand je travaille avec eux, quand j'échange avec eux, que ce qui leur apporte beaucoup, c'est cette pratique artistique des élèves, être au contact de cette pratique artistique, et puis ça leur permet aussi, hein, on ne pratique pas nous, mais d'avoir justement une réflexion sur ces pratiques artistiques, et c'est ce qui les intéresse beaucoup. C'est vrai qu'un professeur de lettres, alors on travaille toujours en histoire de l'art, en histoire des arts, etc. Mais on a peu l'habitude de cette pratique artistique. Et c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup. En tout cas, les collègues me disent que voilà, c'est quelque chose de plutôt positif. Et aussi, un point qui est très important, c'est la possibilité de réinvestir tout ce que l'on fait en opéra. Alors, tout, peut-être pas, mais une partie de ce que l'on fait en opéra et dans les ateliers opéra au sein de sa matière. L'objectif cette année, ça a été d'ancrer le projet opéra dans les programmes de l'éducation nationale. Et on s'est emparé véritablement du projet en disant, nous, ce que l'on veut, ce n'est pas forcément cette année travailler sur une œuvre du répertoire comme La Flûte enchantée, même si on y a trouvé tout à fait notre compte l'année dernière, c'est de participer à la création et que nos élèves puissent faire un va-et-vient permanent entre ce qu'ils voient en cours de français, en cours d'histoire, on a plutôt axé sur ces deux programmes, et ce qu'ils vont faire en opéra. Et qu'on puisse faire le va-et-vient permanent entre le disciplinaire et entre l'artistique. Donc on a travaillé en sixième sur les mythes grecs, hein, les mythes fondateurs, et aussi un travail sur le narratif. Donc ça, c'est pour le programme Histoire français. Et puis en cinquième, on travaille sur le roman d'aventure, les grandes découvertes et le Moyen-Âge. Bon, alors là, je vous dis rapidement ce que l'on fait. Bien évidemment, il y a eu tout un travail au préalable de cadre et de poser un cadre avec les enseignants et un travail avec les artistes sur qu'est-ce qu'on travaille exactement. Et puis, pour prendre un exemple tout simple, moi, je travaille avec mes élèves sur un tableau en opéra sur la construction d'une machine à la manière un peu de Jules Verne. Donc ça m'a permis de travailler avec eux qu'est-ce que c'est qu'une scène d'exposition, puisqu'on travaille l'exposition, la scène d'exposition de notre de l'opéra au niveau 5e. Donc comment on va réinvestir ce que l'on a appris sur la scène d'exposition, sur l'incipit, en opéra. Et puis on a fait des va-et-vient constants. Voilà, en cours de français, j'arrive à réinvestir ce que l'on voit en théâtre plus facilement que dans d'autres matières. Hein. Je ne suis pas un spécialiste du chant, de la musique ou de l'art plastique, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi. Mais c'est l'un des grands apports du projet, c'est ce va-et-vient permanent et pouvoir dialoguer entre les matières et entre les arts. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et ce que ça fait évoluer dans nos pratiques, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est bien évidemment le travail de transdisciplinarité hein, qui est vraiment mis en place ici, même si ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas toujours facile de travailler avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, mais on arrive autour de ce projet opéra qui est quand même gigantesque, à avoir des petits satellites. Moi je sais que le professeur d'art plastique qui a donc tous les niveaux et qui travaille spécifiquement avec ma classe sur un projet de construction plastique autour d'une machine. Donc voilà, il y a des petits satellites qui se mettent en place comme ça autour de ce projet. Donc on a pu travailler des travaux, on a pu faire en français des travaux d'écriture, on a même fait des alexandrins pour, enfin bon, on va venir voir la restitution à la fin. Ah, je suis très fier de mes alexandrins, enfin des alexandrins des élèves parce que... Donc voilà, bien évidemment, je l'ai dit, hein, ça nous interroge sur nos méthodes d'enseignement et le rapport des élèves au savoir. Sur le co-enseignement, ça c'est un point très important sur lequel on réfléchit en permanence, hein. Tout n'est pas résolu, tout n'est pas facile, et puis voilà, je crois que j'ai terminé de... Et j'ai pas pris 7 minutes.
Hein. Alors, comme Marion Dib va un peu expliquer, donc le Centre Alain Savary, Sylvie Pavrotil, régulièrement présents au moment des séances au collège et dans l'école. Et voilà, après un an et demi d'observation. Donc, on va demander d'abord, du point de vue des artistes, alors, qu'est-ce que ça a provoqué?
Alors, déjà, vous dire, je m'excuse de parler au nom des artistes, on le fait simplement parce que le mardi, ils sont en atelier, les artistes. Et qu'on essaye toujours, dans les multiples contraintes de ce projet, de privilégier à chaque fois la présence en atelier, d'essayer au maximum de ne pas faire sauter de séance, parce que ça devient très très vite un gros casse-tête après, pour tout le monde, parce que la régularité aussi, justement, est très importante pour les élèves, dans leur engagement. Voilà, donc je parle au nom des artistes pour vous expliquer un petit peu les impacts que ce projet peut avoir sur leur quotidien, leur fonctionnement d'artiste. Déjà, c'est très particulier parce que ça leur demande des choses auxquelles ils ne sont pas forcément habitués. Comme les enseignants, en premier lieu, la co-intervention. Déjà, la co-intervention entre eux, puisque vu qu'on est dans une pratique qu'on souhaite pluridisciplinaire, on ne souhaite pas que ça cohabite. L'idée, c'est pas que chaque discipline ait sa petite place, son petit pré carré. C'est bien que, comme dans un opéra, ça dialogue, que les choses se rencontrent et se croisent. Donc, ils travaillent cette pluridisciplinarité avec plus ou moins d'aisance en fonction des disciplines dont ils sont issus. Un musicien qui a l'habitude de travailler à l'opéra, il a l'habitude que tout se mélange. Pour un plasticien, c'est déjà plus délicat. Voilà, ils apprennent ça. Et pour l'apprendre, c'était une de leurs exigences aussi au départ, c'est de pouvoir se rencontrer artistiquement, de faire des choses ensemble. Donc on leur a aussi dégagé du temps pour ça, pour pouvoir travailler ensemble avant de travailler avec les élèves, pour pouvoir vraiment se rencontrer et faire se rencontrer leurs pratiques. Ensuite, il y a la co-intervention avec les professeurs. Qui suppose pour les artistes de se mettre un petit peu à jour sur l'idée qu'ils ont de l'école et de son fonctionnement. Ça nécessite de connaître les systèmes. On a tous appris avec ce projet que le premier et le second degré, c'était deux mondes. On n'en avait pas conscience avant. Et puis, ça fonctionne dans un double sens. Ça nécessite aussi de s'adapter aux méthodes de chaque enseignant. Et vice-versa, pour les enseignants, de s'adapter aussi aux méthodes de chaque artiste. Donc quand on arrive à des volumes où on a 24 classes et 7 artistes, voilà, ça devient un gros boulot pour chacun d'entre eux. Ça leur demande également, ça c'était une tâche qui n'était vraiment pas évidente, parce qu'on ne leur demande pas ça habituellement, d'apprendre à expliciter leurs objectifs, d'apprendre à expliquer ce par quoi ils veulent faire passer les élèves, ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils observent chez les élèves, et où ils souhaitent les emmener, où ils souhaitent emmener le groupe, les individus, et selon quelle modalité. Voilà. Pour eux, c'est très clair dans leur tête, et c'est souvent... le chemin n'est pas forcément très précis. Ça se construit aussi au fur et à mesure, en fonction de ce qu'ils observent, de références auxquelles ils vont... faire appel, et c'est très déstabilisant pour les enseignants de ne pas avoir en amont un contenu mieux défini des interventions. Donc ça, c'est aussi notre rôle de les aider à verbaliser un petit peu leurs objectifs. Et enfin, ça leur demande aussi d'assumer une posture un petit peu qui peut être parfois bancale, puisqu'ils se retrouvent à la fois dans une posture où ils sont là pour transmettre un savoir. Ce projet avec ce volume d'intervention, il a aussi un objectif éducatif, pas seulement de sensibilisation. Là, on est dans une histoire qui nous permet vraiment d'ancrer des savoirs aussi disciplinaires sur les pratiques artistiques. Mais là, du coup, on est sur un terrain glissant, puisque la transmission, c'est l'affaire des enseignants dans l'éducation nationale. Et puis, à la fois, on leur demande aussi d'embarquer les élèves et les enseignants dans un processus de création. Voilà, donc c'est cette double posture qui n'est pas forcément évidente. Sur ce que ça leur... maintenant que j'ai expliqué un petit peu ce que ça leur demande, ce que ça leur apporte, moi, il me semble que... Enfin, aussi dans les échanges qu'on a avec eux, dans le cadre de l'atelier, ils ont le même engagement que dans le cadre de leurs autres pratiques artistiques. Et ils interviennent, même si on leur demande des aménagements, c'est eux qui donnent le rythme, ils interviennent selon leurs propres modalités. Les modalités d'intervention des artistes, elles sont de plusieurs ordres, elles peuvent être d'abord de l'ordre de la performance. Il y a un côté parfois très corporel dans leurs interventions aussi, ils sont très engagés physiquement. Et de l'ordre aussi du processus de création. Ils privilégient dans leurs interventions la recherche, l'expérimentation avec les élèves collectivement. Et de ce fait, moi, de mon point de vue, ces modalités d'engagement, elles sont assez similaires à celles qu'ils ont d'habitude. Et il me semble que c'est plus les enseignants qui s'adaptent au fonctionnement des artistes dans les ateliers, quand même, malgré tout, que l'inverse. Et ça permet aux artistes, et ça c'est très important, puisque le volume d'intervention peut être vraiment lourd à porter pour eux, ça permet aux artistes de bénéficier quand même du même type de gratification professionnelle que quand ils sont dans leur pratique individuelle ou enfin, voilà, créative. On retrouve dans leurs propos, c'est le plaisir de faire émerger des propositions individuelles des élèves, de pouvoir y apporter une réponse artistique collective, le plaisir de transmettre, le plaisir d'échanger des savoirs, d'échanger des contenus artistiques avec les enseignants, avec les élèves aussi, puisque l'idée c'est de faire émerger ce qu'ils ont déjà pratiqué, connu, etc. Et voilà, donc ça reste quand même pour eux, enfin en tout cas on y est attentif aussi, parce qu'on peut, aussi les garder dans cette durée-là en faisant en sorte que ces gratifications existent. C'est très important, voilà. Et malgré tout, même si c'est pour eux quelque chose de singulier, ça fait évoluer leur pratique. Aussi parce qu'on est donc, vous l'avez compris, on est une grosse institution. Ils ont pu découvrir aussi au fur et à mesure du projet que l'éducation nationale était une autre grosse institution. On a dessiné un cadre avec eux en amont pour les interventions, mais tout en se disant qu'on était là pour expérimenter, pour tester quelque chose. Et donc, les modalités d'intervention, les contenus se définissent au fur et à mesure. Et donc, ça nécessite de la part des artistes une implication au-delà de leur champ habituel de compétences. Quelques exemples. Alors, au niveau opérationnel, ils sont amenés à faire des choix sur l'organisation, la durée des ateliers, les lieux des ateliers, les contenus qu'on va travailler ou pas, en lien avec les enseignants. Et donc, en connaissance de cause, en prenant en compte des contraintes qui ne sont pas les leurs habituellement, un planning d'élèves, voilà, un emploi du temps de collège, etc. Donc, des contraintes administratives, logistiques, et en travaillant avec des professionnels qui n'ont pas la même culture qu'eux. Voilà, une autre manière d'aborder les choses. Un exemple, on en reparlera peut-être plus en détail plus tard. Est-ce qu'il faut évaluer les élèves? Et comment? Voilà, donc ça, c'est le genre de débat, de questions qui était nouvelle aussi pour eux, pour certains d'entre eux en tout cas. Et puis, à un niveau plus institutionnel aussi, ils sont quand même partie prenante aussi des enjeux que l'on porte nous en tant qu'opéra. Donc ils sont amenés à observer, comprendre les fonctionnements et se positionner sur toute cette réflexion plus globale sur l'éducation artistique et culturelle, sur tout ce qu'on essaye de faire. Voilà, donc ça, ce projet-là, il leur amène plus de complexité dans leur pratique, plus d'enjeux à démêler. Et d'ailleurs, on a pu, pour recontextualiser un peu cette question, on en est venu à mettre en débat aussi ce qui est en résidence, puisqu'au départ, on a parlé d'une résidence d'artistes portée par l'Opéra de Lyon, et finalement, c'est un peu l'Opéra de Lyon qui est en résidence dans les établissements scolaires. Ils sont partie prenante de quelque chose qui les dépasse, qui les accueille, mais qui les dépasse. Voilà.
Merci. Sylvie, est-ce que tu voudrais nous faire part du travail d'observation que vous avez conduit et que vous avez observé de l'impact que ça a sur les différents professionnels impliqués dans ce projet?
Alors je vais proposer quelques éléments en sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par François et par Marie. L'hypothèse au départ, en amont du projet, c'était de dire qu'une résidence d'artiste comme ça, dans un projet aussi conséquent, ça aurait nécessairement, ça allait créer des dynamiques de transformation professionnelle, à la fois sur les enseignants et sur les artistes. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on s'est penché sur cette question-là. On a beaucoup parlé pour l'instant de processus d'adaptation. Alors effectivement, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder comment est-ce que, dans une temporalité qui est longue, bien entendu, on passe du processus d'adaptation au développement professionnel. Alors, si on est au départ dans un processus d'adaptation, c'est parce que dans ces fameuses co-interventions, ben, il y a des équilibres professionnels qui sont déstabilisés. Ça crée finalement des sentiments d'inconfort professionnel, hein, avec parfois même des sentiments de manque d'efficacité professionnelle de part et d'autre. Hein. Et l'idée, c'est que pour chacun des professionnels, alors je veux dire les acteurs du projet, quand je dis les acteurs du projet, c'est vraiment à la fois les enseignants et les artistes. Hein. Donc avec cette idée que finalement, les acteurs du projet, à certains moments, pour pouvoir retrouver des équilibres professionnels satisfaisants, ben, sont obligés d'accepter de prendre un certain nombre de risques professionnels, hein, bien entendu, pour aller du côté du développement professionnel et pour retrouver de la satisfaction professionnelle. Alors, je vous cite juste deux paroles, une parole d'enseignant, une parole d'artiste, qui parlent justement du début du projet, c'est-à-dire de ce moment où ils étaient vraiment dans l'inconfort et dans la phase d'adaptation. Donc on a un enseignant qui nous dit « Je t'avoue, septembre-octobre, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop comment me positionner vis-à-vis des artistes, je ne savais pas trop ce qu'on attendait de moi, je ne savais pas trop où j'allais. » Voilà. Pour les artistes, alors ça ne se posait pas forcément tout à fait de la même façon, mais quand même, je vous cite également, hein. « Est-ce que cette pratique-là peut altérer le travail de l'artiste ? C'est la question qu'on peut se poser. Comment on peut vivre ça ? Comment on peut conjuguer ce travail de transmission avec un travail artistique ?» Voilà, donc on se rend bien compte, hein, qu'il y a un certain nombre de choses qui bougent. Alors, j'en viens à la deuxième partie de ce que je voulais vous dire, c'est que du fait qu'il y a co-intervention, il y a nécessité d'un maillage de professionnel. Et ce maillage professionnel, il est notamment fortement influencé par le fait qu'il y a un maillage des cadres et des normes de deux institutions qui sont toutes les deux, on vient de le dire, des grosses institutions. Et qui dit grosses institutions dit un côté un petit peu normatif, qui peut quelquefois avoir des conséquences sur nos professionnalités dont on n'a pas forcément conscience, mais qui sont assez considérables. Alors là encore, je vous lis deux paroles d'acteurs du projet. « Moi, je me rends compte que j'ai encore du mal à me laisser porter par les propositions du comédien, parce que j'ai peur de ce que ça va donner auprès des élèves. Je suis un peu bancale là-dessus. Eux le ressentent aussi. C'est pas évident de trouver l'équilibre entre la dimension artistique et on est quand même en cours. Il y a des règles à respecter. On est à l'école. C'est l'opéra à l'école. » Voilà. Donc ça, c'est une parole d'enseignant connue. Je contrebalance avec une parole d'artiste. Tout ça se fait un peu en improvisation. Enfin, on communique par mail. Cependant, ça se fait dans l'instant. Je trouve que ça se fait assez bien. Après, je ne sais pas comment lui, l'enseignant, il le vit. On n'est pas, ou en tout cas, on ne prend pas toujours le temps d'en discuter. Ceci dit, dans l'instant, on arrive à se parler, à mettre les choses en place et à se dire l'essentiel. Voilà. Donc on voit bien, hein, que là, il y a des choses qui se jouent. Alors, l'idée, si on essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe, c'est qu'on est, voilà, en situation de co-intervention, que l'enseignant, quand il va intervenir auprès des élèves, ben, il est dans sa posture d'enseignant, avec ses exigences d'enseignant et avec en tête ses cadres d'enseignant. Et que l'artiste, quand il intervient dans l'atelier, ben, il est davantage avec ses cadres et ses normes de la scène, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la classe. Et donc, quand il attend des postures de la part des élèves, ben, ce sont les postures de la scène. Voilà. Donc, on imagine bien que derrière tout ça, ben, enseignant et artistes doivent bien entendu réussir à un certain moment à trouver leur compromis de façon à ce que chacun ait leur place. On imagine bien aussi la complexité que ça représente pour les élèves, pour qui tout ça est assez opaque, où il y a une forme d'implicite, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre que l'enseignant attend de l'élève une posture d'élève, que l'artiste attend de l'élève une posture d'artiste, de création, etc. Et tout ça, ça se fait quasiment simultanément, quoi. On alterne entre ces exigences pour l'élève, Et donc c'est d'une très grande complexité. C'est d'une très grande complexité pour les professionnels, mais également pour les élèves au sein des ateliers. Voilà. Je passe très vite sur une troisième partie que je voudrais développer. Au niveau de ces co-interventions, elles conduisent effectivement à réinterroger certains points de vue et quelques routines également. Alors, on en a déjà parlé hein, pour certaines, mais notamment sur la temporalité des apprentissages. Alors, les artistes ont été assez étonnés au départ. De constater qu'en fait, un élève, quand on lui dit quelque chose, il ne se l'approprie pas immédiatement. Il ne suffit pas de dire une chose une fois pour qu'elle soit assimilée, digérée, interprétée et remobilisable, et en plus stabilisée d'une séance à l'autre. Voilà. Donc ça a été une première chose. Alors, bien entendu, il y a une phase d'adaptation par rapport à ça. Aujourd'hui, les artistes en sont parfaitement conscients, ça ne pose plus de problème. Voilà. Mais de la même manière, on a dit, les enseignants, la co-intervention, ce que ça leur permet, c'est à certains moments d'être en posture d'observateur de leurs élèves. Et donc, ils peuvent observer leurs élèves en train d'apprendre. Et ça leur permet également de se remettre un petit peu à jour sur les processus d'apprentissage, sur la discontinuité des processus d'apprentissage, et sur le fait que tous les élèves n'apprennent pas au même moment la même chose, de la même façon, ne retiennent pas la même chose non plus, et qu'il n'y a pas des postures spécifiques aux apprentissages. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir des élèves qui vont s'approprier un certain nombre de choses, apprendre un certain nombre de choses, tout en étant dans une posture qui n'est pas celle qu'on attend en classe d'un élève. Voilà. Donc il y a, en termes de temporalité, il s'est joué quand même un certain nombre de choses dans ces séances d'atelier. Une autre chose, alors on en a un petit peu parlé, mais c'est effectivement les regards qui sont posés sur les situations et ça émerge vraiment au moment où on parle d'évaluation. C'est-à-dire que l'artiste, quand il pose le regard sur une situation, il regarde la production du groupe. Voilà. Et ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que chaque individu met en œuvre toutes ses ressources pour une production collective. Et de son point de vue, s'il y a quelque chose à évaluer effectivement, c'est la production collective, parce que c'est celle-là qui est intéressante. Alors bien entendu, il est conscient que cette production collective, elle engage chaque individu et elle l'engage en responsabilité. Mais il n'empêche que c'est la production qui est vraiment intéressante. La vocale de l'enseignant, ce n'est pas du tout la même. L'enseignant, il est là pour conduire chaque individu à progresser. Donc le regard ordinaire de l'enseignant en classe, c'est vraiment d'accompagner chaque élève dans les apprentissages et ensuite d'évaluer la performance individuelle des élèves au regard de ces apprentissages. Donc on est vraiment dans des regards là qui sont complètement différents. Et donc on imagine bien que quand artistes et enseignants vont parler évaluation, il va y avoir des discussions qui vont conduire chacun à s'interroger sur sa représentation de l'évaluation. Alors je cite encore là une dernière parole, après j'arrêterai avec les paroles. Il y a deux visions qui cohabitent, c'est aussi très intéressant qu'on ait deux visions, sinon le partenariat n'a aucun intérêt. Il y a vraiment une prise de conscience de la richesse de ces échanges. Et puis, alors, un dernier point, puis après j'arrête, je ne sais pas si je réponds, je vais peut-être avoir explosé mes 7 minutes. Donc, vraiment un dernier point qui nous permet de souligner l'importance de ces regards croisés, c'est que dernièrement, lors des dernières discussions qu'on a pu avoir autour des évaluations, certains enseignants ont proposé que les élèves soient partie prenante de leur évaluation. Et ça, vraisemblablement, c'est quelque chose qui n'aurait pas eu cours si on n'avait pas eu le projet Opéra sur l'établissement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? De notre point de vue, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'aujourd'hui, les élèves ont réellement développé une compétence de spectateur. Et cette compétence de spectateur, elle s'incarne effectivement dans le regard critique que les élèves peuvent porter sur ce qui se joue dans l'atelier, ce qui se joue quand ils vont voir un spectacle, etc.
mais elles s'incarnent également sur ce qui se joue en eux quand ils sont en atelier et quand ils sont même, vraisemblablement, en classe. Et les enseignants, du fait aussi vraisemblablement qu'ils sont régulièrement en posture d'observateur de leurs élèves, ont pris conscience de ça. Et aujourd'hui, le disent, eh bien, il faut qu'on réaménage cette question d'évaluation, elle n'est pas encore réglée. Mais en tout cas, il y a une chose qui semble importante aujourd'hui, c'est que les élèves ont un point de vue sur la question de l'évaluation, et ce point de vue, il va falloir le prendre en compte et le prendre en charge d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Voilà. Et éventuellement, si vous voulez, je vous cite une dernière parole. J'ai l'impression qu'ils sont épanouis, qu'ils sont beaucoup plus demandeurs maintenant. Mais est-ce que je pense que c'est réellement ça où je me fais des idées? Donc pour chacun d'entre eux, que ce soit vraiment individuel, et là, moi, je sais, quand on passe par chacun, ils sont tellement heureux parce qu'on leur donne de l'importance et qu'on leur dit « tu es important, ce que tu penses est important ». Et ça, c'est extraordinaire.
Merci. Alors justement, maintenant, on va s'intéresser à l'impact de ce projet sur les élèves. Qu'est-ce que ça a provoqué chez les élèves, sur les apprentissages, sur les postures, les comportements? Qu'est-ce que, au bout de 3 ans, il y a des choses qui sont jouées de leur côté, Marie-Olivier?
Alors, ce qui s'est joué au bout de 3 ans, mais quand même pas, on n'a pas fini la troisième année. S'il y a des temporalités de pratique artistique, il y a aussi des temporalités d'études. Donc je vais être très très prudente dans mon propos. Ce sont des propos qu'il me semblait intéressant de partager, mais je partage, comme nous partageons, parce que c'est un travail commun que nous menons, c'est un travail en cours, et le rapport définitif est prévu pour septembre 2014, pardon, je lis trop vite. Donc ce qui est restitué est partiel, et c'est un objet de sélection totalement opportuniste pour cette table ronde. Et dans ce que je vais dire, je pourrais donner l'impression d'une fluidité du projet, sans écueil, et ce n'est évidemment pas le cas. Élèves et professionnels ont eu besoin de temps pour trouver leur place respective, et une enseignante a dit, au cours d'un entretien, ce n'était pas gagné d'avance. Alors, les apprentissages des élèves, difficile évidemment de prétendre avoir accès à une évaluation objective du lien entre les pratiques artistiques et culturelles et les acquis des élèves, mesurés scientifiquement. Et j'ai dit ni scanner, ni sensiblomètre. C'est-à-dire que dans les attentes de ce qui pourrait être une étude évaluative de notre part, on sent bien si on fait de la musique, est-ce qu'ils vont être meilleurs en mathématiques? Donc il y a des attentes de cet ordre-là auxquelles il était évident qu'on ne peut pas répondre. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut y répondre. Donc si vous attendez ça, on ne l'aurait pas. Par ailleurs, donc quand même aussi un point de vue sur la méthode. Donc on a recueilli le point de vue de tous les élèves de CM2 et de 6e, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la globalité du projet, on est deux à travailler, donc on est sur un suivi de cohorte CM2, 6e, 5e. Donc là je vais parler de l'année 2 du projet, centré sur le collège, et ça concerne, donc centré sur le collège, il y a des éléments de l'école aussi, donc ce sont des élèves de CM2 et de 6e, pas les autres. Par un biais de donc un questionnaire rempli individuellement, cette modalité a permis une collecte de verbatim, c'est-à-dire ce que répondent les élèves aux questions, de 163 élèves, et donc une certaine représentativité. Et cette approche par questionnaire s'inscrit en complémentarité avec des entretiens que nous avons menés auprès des professionnels et d'autres données d'observation et de documentation qui nous permet de repérer des traces ou empruntées à l'ouvrage de Caroline Archapata, des traces d'impact de ce projet sur les apprentissages. Sinon, dans ce que je vais vous proposer, je n'ai pas eu le temps entre hier et aujourd'hui, mais j'aurais aimé le faire, de les inscrire dans la classification que nous avait proposée Alain Kerlin. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, J'ai envie de dire au départ, on parle d'apprentissage fondamentaux à l'école et ben, j'ai envie de rétorquer par au fondement des apprentissages. C'est-à-dire qu'au fondement des apprentissages, les enfants sont amenés à suivre des démarches dans une dynamique qui s'appuie sur les fondements de l'expérience sensible, sur la nécessité de grandir, sur la maîtrise des émotions. Cette approche globale, qui est bien sûr difficilement évaluable, semble néanmoins un apport construit par les artistes. À propos de l'expérience sensible, un élève dit « on apprend à mieux comprendre les différents sens et les exprimer ». Sur la nécessité de grandir, un artiste dit « après, l'important c'est qu'il se saisisse de cette rencontre, entendu avec les pratiques artistiques, pour trouver leur histoire, comment ils peuvent s'appuyer là-dessus pour pouvoir dépasser, se dépasser et tenir debout. » Et ensuite, la maîtrise des émotions, un élève dit « je dépasse la toute petite timidité qui est en moi, c'est ça que j'aime le plus. » Un autre dit « on apprend à jouer la comédie et à ne pas avoir honte de jouer devant des personnes. » Et un troisième, pour moi, l'opéra est un endroit où on peut s'exprimer, avoir une autre personnalité. Alors, sur les fondements des apprentissages, bon, après je vais prendre, en fonction du temps, j'ai à peu près sept éléments à partager. Bon, d'abord de savoir que l'année 2 s'est inscrite, comme on vous l'a dit, sur travailler à partir de la flûte enchantée. Et les flûtes enchantées, ben, c'est un texte difficile. Donc, à l'écrit, dans une approche textuelle, les scènes de la flûte enchantée choisies par chaque classe ont confronté les élèves à un travail de compréhension et de restitution d'un texte difficile, complexe, inhabituel dans le cadre scolaire ordinaire. Conscients de cette difficulté du texte d'origine, les artistes ont proposé un travail d'écriture exigeant à partir duquel il était possible de remettre l'ouvrage sur le métier de manière à ce que les élèves incarnent mieux le texte, trouvent de la justesse par rapport à un contexte historique, culturel, et comprennent les ressorts et les effets à produire dans une situation comique et actualisée. Un deuxième élément, c'est la mémoire. La mémoire, c'est aussi fondamental dans les apprentissages. Hein, mémoire et concentration longue. Hein, là, on retrouve le propos d'Alain Guerlain. Hein, on sait qu'un développement majeur qui est exigé pour toutes les disciplines et reconnu comme primordial est la mémoire. Il y a une obligation incontour-